Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qui lit ?
Mes élèves vont finir par savoir que je suis écrivain. C'est ce qu'il avait déclaré un jour à la presse, professeur de lettres et écrivain. Thomas Reverdy a cette double casquette et ce sont deux quotidiens qu'il segmente autant que possible. Agrégé de lettres modernes et marqué par la lecture d'Antonin Artaud, il a signé une dizaine d'ouvrages en 20 ans. Pour n'en citer que quelques-uns, Les Évaporés, L'hiver du mécontentement, où il était une ville. Avec une plume qui puise tour à tour dans les traditions des récits de formation ou les romans noirs, il a pensé l'amitié, le souvenir, la disparition et le deuil. Avec souvent un pied dans le réel. En parlant du New York post 11 septembre dans L'envers du monde, par exemple, ou avec son dernier ouvrage, Climates, qui aborde le réchauffement climatique et la fonte des glaces de l'Arctique. On retrouve Thomas Reverdy dans le Qu'est-ce qu'il lit, enregistré au Salon du Livre du Mans.
Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Thomas Reverdy.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio installé au Salon du Livre du Mans, faites lire. Nous sommes ensemble pour retracer les livres qui vous ont marqué, pour le meilleur, pour le pire. Et pour ça, je vous propose une sorte de questionnaire de Proust qui a été conçu par le Monde des Livres. Il est intitulé « Le qu'est-ce qu'il lit ?». Pour commencer, y a-t-il un écrivain avec qui vous aimeriez passer une soirée ?
Je pense que l'écrivain avec qui j'aimerais passer une soirée, c'est quelqu'un que je considère presque comme un ami, tellement je l'ai fréquenté, mais seulement à travers ses livres, malheureusement, puisqu'il était déjà mort lorsque j'ai commencé à lire et lorsque je l'ai rencontré. C'est Richard Brautigan, un écrivain américain, poète, romancier, qu'on appelle parfois le dernier des Beats, parce que c'était le dernier de la Beat Generation, qui a commencé avec un roman qui s'appelle La pêche à la truite en Amérique, et qui a été à la fois le dernier des Beats et le premier des hippies, et qui a vendu des millions d'exemplaires de sa pêche à la truite, là. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert, moi, assez jeune, par l'intermédiaire d'un autre écrivain, un Français, qui s'appelle Philippe Dian, qui écrit toujours, et qui est romancier, et qui, dans ces années-là, quand j'avais une quinzaine d'années, se faisait un peu le passeur de toute une littérature américaine assez nouvelle, assez contemporaine, rafraîchissante, revigorante, qui parlait du monde dans lequel on vivait avec des mots qui nous semblaient ceux de tous les jours, mais d'une manière un peu originale et qui faisait envie, quoi, qui faisait américain. Notamment ce Richard Brautigan, dans une nouvelle de Crocodile, je crois, Jean se met en scène dans un café en train de pleurer la mort de son copain Brautigan au milieu de plein de gens qui boivent des bières et qui n'ont rien à faire parce qu'ils connaissent pas tout simplement ce poète américain. Et je me suis dit, mais c'est qui ce type? Alors je suis allé voir et j'ai lu à peu près tout de lui, et notamment un bouquin qui vaut toutes les cures de Xanax et de Lexomil du monde, là, qui est un espèce d'antidépresseur universel qui s'appelle Un privé à Babylone. Je connais personne qui n'ait pas ri en lisant ce livre.
Un privé à Babylone, de Richard Brautigan. Nous étions assez bons copains avant que je ne commence à lui emprunter de l'argent sans pouvoir le lui rembourser. Nous étions encore amis, mais il voulait récupérer son argent. Ce qui fait qu'il y avait, comme qui dirait, une espèce de petit muret entre nous. Rien de grave, mais un petit quelque chose quand même.
Et puis d'autres, beaucoup plus à la fois tendres et cruels et un peu tristes, comme Mémoire sauvée du vent, où il raconte un épisode tragique de son enfance où il tue un de ses camarades par accident avec un fusil de chasse, là. Et c'est toujours écrit avec une sorte de nostalgie et de tendresse amusée, une sorte de décalage du regard très léger sur des choses tout à fait banales et quotidiennes de notre univers, mais qui sont observées comme ça avec un petit peu de décalage, de recul, quelque chose, une façon poétique de voir le monde qui est toujours merveilleuse. Alors, je suis pas sûr que ce soit le convive idéal, en fait, pour un dîner, par exemple, parce qu'il était quand même très, il était plus qu'original. Il était Christian Bourgois qui le faisait venir en France, décrit un séjour apocalyptique au début des années 80 où le type s'enferme dans sa chambre d'hôtel, il boit 3 litres de whisky par jour, il veut qu'on l'emmène à Disney World. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais moi qui ne l'ai connu que par ses livres, je peux me permettre de rêver de passer une soirée avec lui. Ouais.
Parce que vous avez envie de lui poser des questions ou parce que vous avez envie de voir le personnage en vrai tellement...
Non, parce que j'ai l'impression de le connaître. C'est des histoires de rencontres comme ça, de voix, de trucs. Par exemple, ça me fait la même chose avec Montaigne. Montaigne, j'ai l'impression qu'il doit ressembler à mon grand-père. Quand je le lis... dans un français quand même un peu vieilli. Je trouve que d'abord sa langue, je la comprends mieux en prenant l'accent du Périgord que je connais, qui était justement celui de mon grand-père. Et j'ai l'impression, du coup, de l'entendre. J'ai l'impression que sa façon de considérer le monde, son humanisme, son souci de la vérité des gens, des détails, de l'individu, en fait, c'était quelque chose qui animait aussi quelqu'un comme mon grand-père. Et donc, j'ai l'impression de le connaître, quoi. J'ai l'impression que si Montaigne ressuscitait demain et que je le rencontrais, j'aurais pas d'énormes sentiments d'étrangeté, quoi. J'ai l'impression de le connaître déjà. Ben, Richard Brautigan, c'est ça aussi. J'ai l'impression de m'être baladé avec lui. J'ai l'impression qu'on pourrait parler de ses livres comme si c'était des épisodes de sa vie qu'il m'avait raconté. Ah, tu te souviens quand ce sombrero est tombé au milieu de la rue et que ça a déclenché une émeute? Ah, et c'est le début de Retombée de sombrero. Et évidemment, c'est une histoire imaginaire, mais bon, voilà, moi,
Quel épisode de vie fait un bon livre?
Quel épisode de...
De vie fait un bon livre.
Quel épisode de vie fait un bon livre? Hein, je sais pas. Virginia Woolf, elle disait qu'on avait suffisamment vécu à 14 ans pour écrire des livres tout le restant de ses jours. Mais bon, il est vrai qu'elle a pas vécu très vieille. Je sais pas quel épisode de vie fait un bon livre. Je pense effectivement, quand elle dit ça, hein, ça veut dire que, en fait, les livres sont faits d'émotions à la fois très, très intimes, mais aussi très ordinaires. L'amour, la peur de la mort, le sentiment de la perte, le désarroi, l'espoir. Et que ces émotions très simples, en plus, elles sont racontées avec des mots qui sont tous dans le dictionnaire, quoi. Donc il y a un côté à la fois un peu bébête et complètement miraculeux dans les livres ou dans les poèmes, dans les œuvres de langage, quoi, disons. C'est que tout à coup, il y a un écrivain qui agence ces mots de tous les jours et ces émotions banales pour en faire tout à coup quelque chose, une expérience. Et cette expérience, on la revit en lisant, en la faisant passer par notre propre corps, par notre voix. On fait passer ces mots à elle ou à lui et ça crée tout à coup une expérience.
Et quelle a été votre propre première expérience de la lecture?
Je sais pas. Pas parce que je pense que j'ai lu des tonnes de trucs dans une médiathèque quand j'étais petit où on me laissait pendant le temps du marché et où je dévorais sans doute des bibliothèques vertes et tout ça, mais j'en ai aucun souvenir. Je pense que mon premier souvenir marquant de lecture, je sais pas si c'est Bilbo le Hobbit, mais ça doit être un Tolkien, peut-être le Seigneur des Anneaux. J'ai un souvenir d'être sous les couvertures. Pourtant, dans mon souvenir, c'est la journée, mais enfin bon, peu importe. Je suis sous les couvertures avec le Seigneur des Anneaux, c'est au début du livre. Ils savent qu'ils sont poursuivis par des espèces de cavaliers de l'Apocalypse. Ils en entendent un sur le chemin et ils se cachent dans le talus, cachés par les racines d'un arbre. Et ils entendent le cavalier s'arrêter, le cheval renifler un peu autour de lui. Ils pensent qu'ils sont perdus, qu'on va les découvrir et que c'est la fin. Et puis finalement, le cavalier s'éloigne. Et je me souviens de ce moment de tension. C'est-à-dire,
de peur.
Ouais, de peur. J'avais peur. J'étais avec eux, quoi.
Le Seigneur des Anneaux, tome 1, La communauté de l'anneau, de Tolkien. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres.
La peur, est-ce une émotion que vous retrouvez souvent dans les livres que vous aimez ?
Je sais pas si c'est une émotion que j'affectionne particulièrement. Je m'en souviens là, dans chez Tolkien, comme d'une première émotion de lecture, quelque chose qui m'ébranle un peu, qui m'émeut, c'est-à-dire qui me fait sortir de moi-même. Je pense qu'après, par la suite, j'ai connu des émotions un peu plus subtiles. quand on est ado, qu'on lit des poèmes, qu'on a l'impression de vivre des histoires d'amour par procuration, le sentiment de la perte, le moment de la séparation, le déchirement, et on se dit oh là là, c'est il y a rien de plus désespérant qu'une histoire qui se termine, et on a l'impression d'avoir vécu cette rupture, et en fait on a vécu des micro trucs, on est encore tout petit, mais les poètes nous font sentir ça, ils nous prêtent des mots pour le dire avec plus de pour donner de l'ampleur à nos sentiments, quoi.
Un poète en particulier ?
Oh ben moi j'étais très classique quand j'étais ado, j'ai découvert la poésie plutôt à travers l'école, donc c'était Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Léo Ferré, quoi, en gros. Les chanteurs y étaient pour quelque chose, hein. Je dis Léo Ferré, c'est pas un hasard, moi j'ai beaucoup écouté les poètes à travers ses chansons, et puis même des gens qui viennent de là, qui sont inspirés, il y avait dans ces années-là Hubert Félix Thiéfen par exemple, qui a des chansons merveilleuses et très écrites. Et d'inspiration très romantique, en fait, hein, les dingues et les paumées, c'était du Baudelaire moderne, quoi.
Les dingues et les paumées d'Hubert Félix Thiéfen. Les dingues et les paumées jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leur monstre crie trop fort près de la sortie, ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers. À 4h du matin, derrière un téléphone, quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à caleter en se gueulant « Come on ».
Y a-t-il un livre ou pourquoi pas un poème dont vous verrez bien le héros ?
Un livre dont on est le héros. Ça, c'est une question amusante parce que dans mon dernier bouquin, j'ai des chapitres qui sont empruntés en fait à ce style de bouquin qui paraissait chez Folio Junior dans les années 80, là, les livres dont vous êtes le héros. Un livre dont j'aimerais être le héros. Non, dans le fond, non, j'aimerais mieux pas. La plupart
ou des... l'anti-héros.
Ouais, ou Bartleby, quitte à dire j'aimerais mieux pas. Les héros tels que la littérature les a définis, donc c'est-à-dire surtout au XIXe siècle, en fait, sont plus du tout des héros d'aujourd'hui. C'était des gens qui avaient tout un parcours, ils traversaient la société entière, ils rencontraient des obstacles et des oppositions, etc. Et en fait, il y a plus de parcours comme ça aujourd'hui. On est plus dans des histoires. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans la littérature contemporaine, dans celle que je lis et dans celle que je pratique, hein, c'est-à-dire des histoires d'anonymes, un peu comme nous, qui vivent en aveugle les uns des autres et sur lesquels s'abattent des événements qu'ils essaient eux-mêmes de comprendre et de surmonter en faisant des choix à leur mesure, mais à leur petite mesure.
Est-ce que vous avez un endroit particulier dans votre quotidien où vous aimez lire ?
Un endroit où j'aime lire dans mon... Non, je lis absolument partout, vraiment n'importe où. Je m'endors partout et je lis partout. C'est deux activités sans doute un peu jumelles.
Bonne définition de personne et de personnage.
Ouais. Je m'endors partout et je lis partout. Ouais, vraiment. Et pas spécialement au lit, parce que... même si c'est évidemment un rituel plus intéressant de s'endormir avec un livre qu'avec un écran, hein, et ça porte plus au rêve de s'endormir avec un livre, mais en vrai, je peux lire tout le temps. Je lis très bien assis. En ce moment, je lis beaucoup dans le train. Et voilà, je lis encore en livre et pas tellement sur liseuse.
C'est risqué de lire dans le train s'il y a un livre qui vous a déjà fait rater votre arrêt ?
Ah non, j'ai jamais raté d'arrêt, tiens. Mais c'est vrai que c'est risqué de lire dans le train. Et ça se voit de moins en moins. Moi, c'est un truc qui me désespère. Dans le train et dans le métro, de voir tous ces gens avec des écrans. En fait, ça me fait penser à la fin d'un film de Wim Wenders au début des années 90. Il avait fait un film qui s'appelait Till the End of the World, jusqu'au bout du monde. C'est le dernier film que j'ai vu où il y avait un entracte qui était proposé au cinéma. Et c'est un film à la fin duquel un espèce de savant fou a inventé pour sa femme aveugle un procédé qui permet de voir. Et en fait, ce procédé, son expérience a mal marché. Il permet surtout de capter ce qu'on a dans la tête et de le transformer en image. Et du coup, les gens regardent leurs rêves. Et les dernières images du film sont apocalyptiques parce qu'on voit une espèce d'armée de zombies sur une plage en Australie, dans un endroit désertique, balayé par les vents, avec chacun des petits écrans. On était en 91, hein, il n'y avait pas encore de téléphone portable, donc on était très loin des smartphones, sur de petits écrans, en train de contempler leurs propres rêves en marchant, sans plus voir le monde autour d'eux. Et quand je vois les hordes de gens dans le train, dans le métro, avec des écrans au lieu d'avoir des livres dans les mains, j'ai l'impression de voir ce peuple de zombies de la fin du film de Wenders.
Mais pour vous, la lecture ne se concilie pas avec l'écran ?
Ah non, 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 non. En plus, je trouve ça. Non. Alors vraiment, je suis un homme du langage, pas du tout de l'image. Enfin, ça interdit pas d'avoir un langage qui essaye d'être imagé. Hein,
je parlais de liseuse.
Ah, les liseuses, ouais. Non, la liseuse, il faut vraiment. Vous voyez, c'est dans un but professionnel, quoi. Je sais pas, je vais à un endroit, je vais rencontrer quelqu'un. J'ai pas envie d'avoir l'air nounouille et de pas avoir lu son bouquin. La librairie est fermée parce que je prends mon train à 7 heures du mat. Hop, je télécharge le livre et je le lis dans le train. Et puis voilà. Mais c'est parce que j'en ai besoin professionnellement. C'est pas.
Si je captais comme ça là dans votre esprit un livre récent que vous avez envie de lire.
Il y en a plein, parce que là, on est en pleine rentrée littéraire. J'arrête pas de croiser plein de gens dont j'ai envie de lire les livres. Je suis voisin de Jean-Baptiste Delamo, là, sur le salon. J'ai envie de lire son livre. J'ai pas encore trouvé le temps de le lire. Je viens de faire une rencontre avec François-Henri Désérable. Heureusement, ça m'a donné l'occasion, du coup, de lire son livre que j'ai trouvé formidablement brillant et libre. On lit un peu au fil, comme ça, de la rentrée. Et évidemment, j'ai envie de... Ouais, peut-être pas de tout lire, mais enfin bon, en gros, quand même, ça fait envie, quoi.
Y a-t-il déjà un livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
Un livre que je voudrais avoir lu avant de mourir, c'est-à-dire que j'ai pas encore lu et je me dis, oh là là, il faudrait quand même que j'ai lu ça avant de mourir.
En général, à cette question, les gens répondent ouais. Des livres de plusieurs centaines, voire un millier de pages, en tant que fait.
Ouais, Le Guerre épée et Proust, ouais, évidemment. Ouais, moi, pour l'instant, je suis plus Dostoïevski que Tolstoï, mais c'est parce que j'ai pas lu Guerre épée, et donc, c'est un gros manque, et sans doute qu'il faudra que je lise un jour Guerre épée pour devenir plus Tolstoï que Dostoïevski. Je sais pas hein, si ça va me convaincre ou pas, mais je pense que oui. Alors, le problème avec Guerre épée, c'est qu'en plus, il y en a trois versions différentes, dans trois traductions différentes, avec trois fins différentes, enfin, parce qu'il y a plusieurs manuscrits, etc. Donc, en plus, on peut le lire plusieurs fois pour la première fois.
Guerre et paix de Léon Tolstoï. Et la guerre commença, c'est-à-dire un événement contraire à la raison et à la nature humaine. Des millions d'hommes commirent les uns à l'égard des autres plus de forfaits, mensonges, trahisons, vols, émissions de fausses monnaies, pillages, incendies et meurtres, que n'en contiennent depuis des siècles tous les tribunaux du monde. Cependant qu'au cours de cette même période, les hommes coupables de ces crimes ne les considérait pas comme des crimes.
Vous citiez un auteur de littérature américaine. Y a-t-il un livre que vous aimeriez pouvoir lire dans sa langue originale ?
Ah, ben j'imagine que justement les Russes... La littérature anglo-saxonne, je la lis en anglais, mais la littérature russe, évidemment, j'y ai pas du tout accès. Je veux dire en langue originale. Et ça, peut-être qu'effectivement, ça vaudrait le coup, ouais. Ouais, parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce de... D'abord, c'est très... si on remonte avant Dostoïevski, à Lermontov, Pushkin et tout ça, tout le romantisme russe, c'est quand même quelque chose à la fois avec des personnages très très forts et puis très... c'est une langue qui est très imagée, on le sent en traduction, quoi, qui est très, très riche, très symbolique. Et donc ça vaudrait le coup de le lire dans le texte.
Au-delà des livres que vous faites lire à vos élèves en classe, y a-t-il des livres que vous avez recommandés à vos élèves qui vous demandaient des suggestions ?
Ouais, alors le sujet de la classe, c'est compliqué parce que il peut se passer des choses en classe. Il y a des profs qui font lire des choses merveilleuses à leurs élèves. Mais c'est malgré l'éducation nationale, quand même. Hein. C'est-à-dire que notamment les programmes au moment du bac, moi j'enseigne régulièrement en lycée, les programmes du bac sont quand même... on dit qu'ils sont patrimoniaux pour pas dire qu'ils sont conservateurs. Et quand on dit qu'ils sont conservateurs, c'est pour pas dire qu'ils sont réactionnaires. En vérité, ils sont... Je pense que le texte le plus récent au programme du bac, ça doit être quelque chose d'Apollinaire. Il y a quand même plus de 100 ans, quoi.
Quel livre devrait être déprogrammé ?
Oh, je ne sais pas s'il faut déprogrammer des livres. Mais déjà, si on enseignait que la littérature est un art, ce serait pas mal. Ça voudrait dire, si c'est un art, que c'est un geste. Et si c'est un geste, ça voudrait dire que les élèves pourraient le reproduire eux-mêmes, qu'on pourrait leur demander d'écrire, par exemple. Ce serait une bonne façon d'amener à la lecture, d'écrire.
Pour vous, il y a des livres qui font aimer lire ?
Ah oui, je pense qu'il y a des livres.